Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Bien placer son argent poche pour les nuls » de Pascal Micolo-Marcel est un guide de finances personnelles consacré au choix d'épargne, d'investissement et de transmission dans le cadre français. Publié dans une collection destinée à rendre accessibles des sujets techniques, il ne promet pas une recette universelle de rendement. Son objectif est plutôt d'aider le lecteur à relier ses décisions financières à sa situation, à ses projets et aux contraintes de risque, de fiscalité et de disponibilité de l'argent. L'ouvrage traite notamment de la préparation des études ou de la retraite, du placement au sein de la famille, de l'immobilier et de sa fiscalité, ainsi que de la prévention des faux bons plans. L'approche s'inscrit dans la mission d'éducation financière portée par l'auteur, également liée à la finance pour tous. Le livre vise ainsi à donner des repères pour comparer les solutions, comprendre leurs contreparties et éviter de confondre sécurité, liquidité et rendement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, partir de ses objectifs avant de choisir un produit financier. Le point de départ implicite du livre est qu'un placement ne peut pas être jugé isolément. Une même solution peut être adaptée pour une réserve disponible, insuffisante pour préparer la retraite ou trop risquée pour un projet proche. Pascal Micolo-Marcel invite donc à faire le point sur la situation financière et les objectifs avant de s'intéresser au produit. Cette logique évite de choisir en fonction d'un rendement affiché, d'une tendance médiatique ou d'une recommandation vague. Elle oblige à préciser le montant mobilisable, la date probable du besoin et la possibilité de supporter une baisse de valeur. Cette méthode répond aux difficultés concrètes auxquelles font face les ménages. Entre coûts des études, incertitudes professionnelles, préparation de la retraite et faible rendement des placements prudents. Le placement devient une organisation de plusieurs poches d'argent plutôt qu'un arbitrage unique. Une épargne disponible protège des imprévus, tandis qu'une somme réellement immobilisable peut relever d'un autre niveau de risque. Le lecteur est ainsi conduit à distinguer besoins immédiats, projets à moyen terme et constitution patrimoniale à long terme. Cette discipline rend également plus lisible la comparaison entre livret, assurance vie, immobilier, support de marché ou dispositif d'épargne retraite. Le livre met moins l'accent sur la recherche d'un produit gagnant que sur la cohérence entre horizon, usage futur et caractéristiques du placement. Deuxièmement, arbitrer entre sécurité, disponibilité et rendement sans faux compromis. L'ouvrage éclaire une contrainte centrale des placements, il n'existe pas de produit à la fois totalement sûr, immédiatement disponible et durablement très rémunérateur. Cette idée est essentielle dans un environnement où les épargnants peuvent être attirés par des promesses de gains simplifiées. Comprendre ce compromis aide à lire les caractéristiques d'un livret réglementé, d'un fonds prudent, d'un placement de marché ou d'un investissement immobilier sans leur attribuer les mêmes fonctions. La sécurité correspond notamment au risque de perte en capital ou de défaillance, tandis que la disponibilité désigne la facilité avec laquelle l'épargne peut être récupérée. Le rendement, lui, doit être apprécié après les frais, la fiscalité et l'inflation, plutôt qu'à partir d'un taux isolé. Le livret A illustre la fonction d'épargne de précaution, son accessibilité et son faible risque répondent à un besoin précis, mais sa rémunération ne constitue pas nécessairement une réponse suffisante à tous les projets de long terme. A l'inverse, rechercher davantage de performance suppose généralement d'accepter de l'incertitude, une durée de détention plus longue ou une liquidité moindre. Le livre apprend donc à poser les bonnes questions avant de souscrire quand l'argent sera peut-être inutile. Quelles pertes sont supportables et quelles contraintes sont acceptables? Cette grille réduit le risque de décisions fondées sur des comparaisons trompeuses entre produits de nature différente. Troisièmement, diversifier les placements pour répartir les risques plutôt que les supprimer. La diversification constitue l'un des principes directeurs associés au livre et à l'approche pédagogique de son auteur. Elle consiste à ne pas concentrer toute son épargne sur une seule classe d'actifs, un seul intermédiaire ou une seule échéance. Son intérêt ne réside pas dans une promesse de gain automatique, mais dans la réduction de la dépendance à un risque particulier. Une baisse des marchés, une période de faible rémunération des produits garantis ou une difficulté de revente d'un actif ne produisent pas les mêmes effets selon la composition du patrimoine. Diversifier ne signifie toutefois pas accumuler des produits sans logique. Le lecteur doit d'abord conserver une réserve de précaution, puis répartir le surplus selon son horizon et son niveau de risque. Les livrets, les placements financiers, les dispositifs d'épargne-retraite et l'immobilier peuvent avoir des rôles complémentaires, à condition de connaître leurs coûts, leur fiscalité et leurs conditions de sortie. L'immobilier peut notamment contribuer à diversifier un patrimoine, mais il apporte aussi des contraintes de gestion, de liquidité et de concentration géographique. Le guide invite donc à regarder l'exposition réelle derrière les étiquettes commerciales. Deux supports différents peuvent dépendre de risques proches. tandis qu'un produit apparemment prudent peut être peu disponible. Cette approche nuance l'idée selon laquelle diversifier suffirait à sécuriser un projet, la diversification répartit les aléas, elle ne supprime ni les pertes possibles ni la nécessité d'un suivi. Quatrièmement, comprendre l'immobilier, le crédit et la fiscalité comme un ensemble, le livre accorde une place identifiable à l'immobilier et à la fiscalité qui l'entoure. Cette orientation est utile car l'immobilier est souvent perçu comme une valeur simple ou naturellement protectrice alors qu'il combine prix d'achat, financement, revenus éventuels, charges, règles fiscales et délais de revente. L'analyse pertinente ne s'arrête donc pas à l'évolution présumée de la valeur du bien. Elle examine aussi la capacité de l'investisseur à assumer un effort financier régulier et les conséquences d'une immobilisation du capital. Le crédit est une particularité importante de cet actif. Il peut permettre de financer un achat avec un apport limité et de constituer progressivement un patrimoine. Mais il ne transforme pas un projet fragile en bon investissement. Son coût, sa durée, l'assurance et la stabilité des revenus influencent directement l'équilibre de l'opération. La négociation et, lorsque les conditions le permettent, la renégociation d'un crédit font partie des compétences financières pratiques évoquées dans l'univers des ouvrages de l'auteur. La fiscalité doit être intégrée de la même façon, elle peut modifier le revenu net et l'intérêt relatif d'un montage, sans devoir devenir l'unique motif de décision. En reliant immobilier, crédit et impôts, le guide encourage une évaluation globale. Il évite ainsi deux simplifications fréquentes, croire que la pierre échappe au risque ou confondre avantage fiscal et rentabilité réelle. En dernier lieu, protéger son épargne contre les arnaques et les faux bons plans. Un apport distinctif du guide consiste à inclure la vigilance face aux arnaques et aux faux bons plans parmi les compétences de base de l'épargnant. Cette dimension est cohérente avec une démarche d'éducation financière. Mieux placer son argent suppose aussi de savoir quand ne pas le placer. Les offres qui promettent des gains élevés, sûres et rapides, exploitent souvent la difficulté à comparer rendement, risque et liquidité. Elles peuvent également masquer des frais, des contraintes de sortie ou une information insuffisante sur l'actif financé. La prévention passe moins par la maîtrise d'un vocabulaire complexe que par quelques vérifications méthodiques. Il faut identifier le produit, l'intermédiaire et les conditions exactes de rémunération, puis comprendre ce qui peut faire perdre de l'argent. Une présentation insistante, une décision demandée dans l'urgence ou l'absence d'explications claires sur les risques doivent conduire à la prudence. Le lecteur est aussi invité à ne pas confondre performance passée et résultats futurs, ni notoriété apparente et fiabilité. Cette approche complète les chapitres consacrés au choix de placement. Une allocation cohérente ne protège pas d'une souscription réalisée sur la base d'informations trompeuses. En rendant visibles les mécanismes de séduction commerciale, le livre défend une autonomie raisonnable. Son but n'est pas de rendre le lecteur méfiant envers toute solution financière, mais de lui fournir des critères pour demander des explications, comparer et différer une décision lorsque les éléments manquent. En conclusion, bien placer son argent poche pour les nuls s'adresse d'abord aux personnes qui souhaitent passer d'une épargne peu organisée à des décisions mieux structurées. Il sera particulièrement utile à ceux qui préparent un projet familial, les études des enfants, une acquisition immobilière, la retraite ou la transmission d'un patrimoine. Il convient aussi aux lecteurs qui disposent déjà de livrets ou de contrats, mais ne savent pas clairement quel rôle chaque placement joue dans leur ensemble financier. Le bénéfice pratique attendu est une meilleure capacité à définir un objectif, mesurer un risque, comparer les contraintes de disponibilité et intégrer les frais ou la fiscalité dans un raisonnement global. Le livre se distingue des ouvrages centrés sur la recherche de rendement rapide ou sur une seule catégorie d'actifs. Son positionnement est plus pédagogique et plus large. Il relie les produits financiers aux choix ordinaires de la vie et insiste sur les arbitrages incontournables. L'expérience de Pascal Micolo-Marcel dans l'éducation financière soutient cette volonté de clarification, notamment sur les mécanismes qui rendent les décisions financières difficiles pour le grand public. L'ouvrage ne remplace pas un conseil personnalisé, car une recommandation dépend du patrimoine, des revenus et de la situation fiscale de chacun. En revanche, il fournit un cadre de lecture utile avant de solliciter un professionnel ou de signer un contrat. Sa valeur tient à cette combinaison de repères concrets, de prudence face aux promesses commerciales et de vision d'ensemble des placements disponibles en France. Si vous souhaitez soutenir Pascal Micolo-Marcel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.